Nous devons produire des âmes.
Turakwiye kuba abantu bazana abantu kuri
L'église de
Yesu.
Dieu doit produire des âmes, frères et sœurs.
Ishengero ry'Imana dukwiye kuba abantu bazana abantu kuri Yesu.
Les âmes perdues qui viennent
abazimiye baze kuri Yesu.
Dans le royaume de Dieu au travers de la gloire de Dieu.
Baze mu bwami bw'Imana biciye mu bwiza bw'Imana.
Nous sommes enseignés.
Turigishwa.
Nous sommes bénis.
Twahezagirwa.
Nous avançons de gloire en gloire.
Tuva mu bwiza tuja mu bundi.
Mais il y a une chose qui est sûre.
Ariko hari kimwe kiboneka neza.
Jamais oublier les âmes perdues.
Ntitukibagire abatazima.
Moi je veux croire pour une grande moisson.
Je ndagomba kwizerera
abakizwa. Je veux que nous portions plus de fruits.
Ndagomba yuko twama ivyamwa vyinshi.
Je veux que l'on ait davantage de fruits.
Ndagomba ko tubone ivyamwa vyinshi
bi. Que les âmes perdues viennent dans le royaume de Dieu.
Abadakijijwe baze mu bwami bw'Imana.
Je ne suis pas satisfait.
Numva ntahaze, numva bitakwiriye.
Je ne suis pas satisfait parce que je crois.
Numva
que Dieu veut révéler sa gloire de façon spéciale dans les années qui viennent ici. Que 2010 soit une année de production d'âmes. Franchement, il me tarde de voir ce frère Andrés Bissoni, mais il y a une responsabilité au travers de ça. Parce que c'est bien qu'on amène des évangélistes.
Mais
nous devons porter plus de fruits.
Vous
savez, des fois, quand je regarde le dimanche au culte, je me dis, mais nous n'avons pas assez de visiteurs. Priez pour amener des gens. La plupart des gens qui se convertissent au culte restent dans le Seigneur. Beaucoup de gens qui se convertissent à droite, à gauche, eh ben, ils ont du mal dans le Seigneur. Donc vraiment, je veux mettre ce fardeau sur vous.
Vous
savez, il y a des églises parfois qui ont 50, 60. Pasteur Mohamed Sanogo me disait, des fois, ils ont eu jusqu'à 100 visiteurs un dimanche. Vous imaginez si on avait 100 visiteurs dans les deux cultes? Imaginez le nombre de personnes qui se donneraient davantage au Seigneur. C'est important. On parle du ciel dans cette série d'enseignements. Parce qu'on a besoin de découvrir davantage. Mais rappelez-vous que le ciel où nous allons aller, c'est notre espérance vivante. Mais c'est pour nous aider, non pas à nous dire, ah c'est bien, je vais aller au ciel, gloire à Dieu.
C'est vrai,
c'est bien d'avoir une description du ciel dans la mesure de ce que la Bible nous donne. Mais ça
doit
être numéro un. Pour dire à ceux qui ne sont pas sauvés. Tu sais, Dieu t'a préparé une place dans le ciel, mais qu'elle ne reste pas vide. Ne manque pas cette occasion que Dieu a pour toi. L'évangile est la bonne nouvelle de Christ. Que Jésus est venu, qu'il a une place pour chacun là-haut. Et il veut qu'on évite l'enfer. Parce qu'il nous aime. Mais c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas dire on évite l'enfer. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile n'est pas là pour dire t'es un sale pécheur. Repends-toi parce que t'es un sale pécheur. L'évangile, c'est de dire tu es pécheur. C'est vrai qu'il y a un jugement qui te court après. Mais il y a un ciel. Tu peux recevoir cela. Tu peux recevoir ces choses. Parce qu'il t'aime. Et il ne t'a jamais créé pour que tu ailles en enfer. Mais il t'a créé pour que tu vives avec lui. Et que tu le vois face à face. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est ce que nous devons transmettre. Plus tu comprendras les réalités célestes, plus sa présence, sa puissance sera sur toi. Et plus il te sera facile dans des environnements d'incrédulité ou des environnements où des gens ont plein de questions. Vous savez, quand quelqu'un est rempli d'assurance, même les pires inconvertis se posent des questions. Bon, il y en a qui peuvent finir en disant, oh vraiment, c'est bon, il est tellement sûr de lui-même, vraiment, il n'y a rien à y faire. Mais quand les gens sentent que vous avez une pleine assurance, sont beaucoup plus attirés. Dieu a de la puissance pour la vérité. Quand tu as une assurance très forte dans la foi et que tu partages
Christ,
les gens sont touchés beaucoup plus.
Plutôt
que, bon, c'est vrai, je suis sauvé, mais. Et puis on sent que tu n'es pas bien sûr quand on te pose des questions.
Non.
Tu dois être affermi dans ton assurance en Christ. Tu es sauvé. Tu dois comprendre réellement, spirituellement, ce qu'est le salut. Comme ça, quand tu partages
Christ
et que des gens disent, essayent de te faire changer d'avis, tu peux leur dire, tu es venu trop tard pour me convaincre. Et ils le sauront. Parce qu'ils voient l'assurance que tu as. Et cette conviction vient de ton esprit. Plus ton esprit grandit dans l'assurance de ton salut, plus quand tu parles aux gens, les gens sont touchés et le Saint-Esprit travaille au travail. C'est simple. Et c'est très puissant. C'est pour ça que nous devons étudier la parole. Et que cette parole entre en nous de plus en plus. Nous avons vu qu'il y a un ciel. Le troisième ciel. Et nous sommes en train d'étudier qu'est-ce qu'il y a au troisième ciel. Et rappelez-vous toujours d'une chose. Le ciel n'est pas l'endroit définitif pour l'éternité où nous serons. Non. Le ciel est un endroit extraordinaire, merveilleux, mais ce n'est pas la finalité du plan du salut pour nous. Je vous rappelle que vous êtes sauvés, mais la manifestation de votre salut se fait en trois phases. La première phase, c'était que Jésus vienne dans votre cœur, que votre esprit soit recréé. La deuxième phase, c'est le renouvellement de votre mentalité. La troisième phase, ce sera la résurrection de votre corps. Parce que pour l'instant, et même quand vous irez au ciel, vous n'irez pas avec votre corps ressuscité. On parlera de la première résurrection aussi un peu plus tard. Parce que nous sommes en train de parler du plan du salut, le plan global du salut. Parce que Dieu nous montre qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons une espérance qui est là, une espérance vivante. Donc tu peux partager ton témoignage, c'est bien.
Et
aussi tu dois savoir où tu vas aller, qu'est-ce qui va se passer aussi. Le ciel n'est pas la finalité, mais nous étudions le ciel. Nous avons recherché dans la parole de Dieu un certain nombre de visions qui nous sont données. Et nous avons découvert qu'il y a un trône où Dieu se trouve, Dieu trône dans le ciel. Et nous avons vu plusieurs visions, nous avons étudié les visions. Nous les avons mis en parallèle. Nous avons découvert que dans l'Ancien Testament, les seules visions qu'ils avaient, c'était juste Dieu sur son trône. Personne ne l'a vu face à face. Et puis, ils ont aussi la vision d'être angélique. Et particulièrement quatre êtres qui supportent le trône. Les chérubins, qui sont des êtres qui sont, waouh, apparemment étonnants. On en voit la description dans Ézéchiel au chapitre 1 et Ézéchiel au chapitre 10. On a Isaïe qui a aussi une vision. Il voit le trône de Dieu. Lui, il ne voit pas les chérubins, mais il voit des séraphins. Et ce sont des êtres angéliques de très haut rang qui sont autour du trône de Dieu et qui volent, qui ont des ailes. Et je vous ai montré clairement que ce soit les anges ou les archanges, ils n'ont pas d'ailes. Seulement les séraphins et les chérubins ont des ailes. Et eux, ils sont autour du trône où ils soutiennent le trône. C'est ce que la Bible nous montre dans les visions qu'on trouve.
Et
dans l'Ancien Testament, nous sommes limités à ces visions, le trône et les êtres qui sont autour du trône. Et puis nous avons fait un tour dans le Nouveau Testament. Et là, dans le Nouveau Testament, nous découvrons beaucoup plus de choses. Le Nouveau Testament va nous révéler beaucoup plus de choses parce que la Bible est une révélation progressive.
progressive. Et nous avons regardé les visions d'Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Et là, nous avons fait le parallèle avec ce qu'Ézéchiel avait vu et Ésaïe avait vu. Et là, d'une façon étonnante, nous retrouvons le trône avec les chérubins aussi. Les êtres qu'il voit, que Jean voit dans Apocalypse 4, c'est strictement identique à la description d'Ézéchiel. Et là, nous sommes en train de découvrir qu'est-ce qu'il y a autour du trône. Parce que dans le Nouveau Testament, là, on va nous faire découvrir beaucoup de choses. On a vu qu'autour du trône, il y a 24
trônes.
Et là, on s'est posé la question, parce que 24, ce n'est pas vraiment un chiffre très biblique, entre guillemets. Par contre, dans l'Apocalypse, nous avons découvert vers la fin de l'Apocalypse que quand Jean va voir une ville, on va l'étudier. La Jérusalem céleste. Et là, il parle de 12 portes et de 12 fondements. Et on sait que sur les 12 portes, c'est le nom des 12 tribus d'Israël. Et les 12 fondements, ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Et là, nous avons regardé un peu les 12 apôtres. Et on s'est posé la question que beaucoup se posent. Judas est-il inscrit sur un des fondements? Il est clair que la réponse est négative.
Et
il est évident que Paul a pris la place de Judas. Je vous rappelle qu'au début des Actes, lorsque ils se posent des questions, ils sont ensemble, tout au début des Actes, ils prient.
Et
en fait, ils veulent remplacer Judas. Et ils tirent au sort. Et ils trouvent Matthias. Et ils disent, Matthias va prendre sa place. C'était un choix humain, non pas un choix du ciel. Matthias n'a jamais été apôtre.
Mais
Matthias, d'ailleurs, on n'entend plus jamais parler. Matthias n'a eu aucune onction. Parce qu'il était un choix humain. Donc, on se doute très largement que Paul est le 12e ici.
Donc,
on s'est posé la question, on n'a pas de révélation qui sont sur ces 24 trônes. Mais on sait qu'il y a une maman un jour qui était la maman des fils de
Zébédée.
Et voulait des petites places pour ses fistons, Jacques et Jean. Et Jésus parle qu'ils seront assis sur des trônes.
Donc,
on peut largement déduire que sur ces 24 trônes, il y a au moins les 12 apôtres. Avec Paul à la place de Judas. Maintenant, sur ces trônes, ils ne sont pas assis toute la journée.
Parce qu'on m'a
posé une question cette semaine par téléphone.
Les
gens pensent que le ciel s'est figé, c'est une image et les gens sont là. Non, il se passe plein de choses au ciel apparemment. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu. En tout cas, quand il y a la vie de Dieu quelque part et que les hommes sont remplis de la vie de Dieu et qu'il y a des anges partout, c'est que ça bouge. Donc on va voir un certain nombre de choses qu'il y a au ciel. Et pour les 12 autres, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que ce sont les 12 fils de Jacob qui sont là? Je vous l'ai dit, quand on sera au ciel, on viendra ensemble et vous direz, le pasteur Olivier avait raison. Et en fait, moi je pense personnellement que ce sont plus les personnages clés de l'Ancien Testament qui sont sur ces trônes, sur les
12
autres. Je vous dis, quand on sera au ciel, on verra. Je vous amènerai et vous verrez vous-même et vous les saluerez.
Amen.
Amen. Alors, maintenant la question qui se pose, qu'est-ce qu'il y a d'autre au ciel? Bon, d'abord, on va regarder un petit peu et se poser certaines questions. Et sur les témoignages que j'ai eu l'occasion d'étudier de gens viables, pas des farceurs qui ont été jusqu'au 7e ciel.
kuntaye nagenda soma nize z'abantu babizigirwa atarababesha ngo barashitse mu ijuru ry'indwi.
Les gens qui vraiment sont viables.
Abantu ushobora kwizigira ubona ko ari abantu
bafite. Qui ont fait cette expérience, je vous rappelle d'être ravi en esprit.
Bye muri cyo kintu cyo gukugwa mu mubiri bagatwagwa mu ijuru.
Tel que Paul l'a fait dans 2 Corinthiens 12, tel que Jean l'a fait dans l'Apocalypse.
Kuko byashike Paul mu bikorano bakabiri 12 nkuko Yohana byamushike mu byashuro Yohana.
Chacun raconte que il était donc dans son corps.
Umwe wese usanga mu ntanga avuga ngo yari yambaye mu biri.
D'un seul coup, quand ils ont vécu cette expérience.
Ama mukanya gato abaye muri byo bintu.
C'était comme un aspirateur qui les aspirait.
Bikamera nkaho mengane kintu kimukweze kimukuye mu mubiri.
Et certains par exemple comme Kenneth Hagin raconte qu'il s'est vu comme s'envoler verticalement.
Et il voyait
son corps en bas et il voyait la maison, le toit, etc. Et hop, il est parti au ciel.
Il y a
quelqu'un d'autre qui disait qu'il était comme dans un espèce d'ascenseur entre guillemets avec des vitres partout.
Il
s'est retrouvé au ciel.
Je
ne dis rien, je n'ai pas de preuve là-dessus, d'accord? On peut rien. Donc, rappelez-vous, nous ne pouvons pas construire une doctrine sur des témoignages. Par contre, chacun dit une chose qu'on va retrouver dans l'écriture, en tout cas. C'est qu'ils sont toujours accompagnés par quelqu'un. Leur ange. Et la Bible est claire. La Bible nous dit que nous avons un ange gardien. Fais attention, il est à côté de toi. Et ça, c'est une vérité biblique.
Ce
n'est pas une fabulation religieuse. Nous avons tous un ange gardien. Un ange qui agit dans certaines situations.
Et
le jour où tu vas quitter ton corps, il va t'accompagner aussi dans la présence du roi des rois. Il y a un être invisible qui est toujours près de nous. La Bible est claire, je vais vous montrer un verset qui le confirme.
Ce
n'est pas une fable religieuse.
C'est
une réalité spirituelle. C'est bizarre, les gens sont tout le temps en train de dire « Le diable et les démons !»
Mais
ils
ne
disent jamais « Ah, merci Seigneur, parce que j'ai un ange gardien. » Vous avez déjà remercié le Seigneur pour votre ange gardien.
Vous devez le faire.
Parce que cet ange gardien est plus réel et beaucoup plus fort que tous ceux qui peuvent vous nuire. Certains d'entre vous, vous avez vu des miracles de protection. Sachez que c'est votre ange qui agit ce jour. Miraculeusement. Qui a arrêté la main. Une main. Invisible.
Qui voulait
prendre votre vie prématurément. Amen. Cet ange agit. On pourrait faire toute une étude sur les anges. Nous avons un ange gardien qui est tout proche de nous.
Et
certains l'ont vu. Il y a des gens qui ont eu des visions d'anges. Kenneth Hagin rapporte de l'avoir vu plusieurs fois. Il était prophète, il avait un certain nombre de visions. J'ai un livre de témoignages de quelqu'un qui était au ciel, et c'est la même chose. Avant d'aller au ciel, bien des années avant, il a fait cette expérience où il a vu son ange gardien. Alors, une chose qui est sûre, ne cherchez pas à voir votre ange gardien.
Quand,
si Dieu un jour vous le montre, il vous le montrera. Mais ne fermez pas les yeux en disant « Ah, il est là ». Ou alors comme certains superstitieux un peu bizarres prédicateurs disent « Ah, tu sens une main qui est sur ton épaule ». C'est la main du pasteur là.
Je croyais que c'était l'ange.
Vous voyez, bon, il y a des gens un peu superstitieux qui commencent
ou
qui cherchent des sensations dangereuses.
Je
tiens à vous le dire, tous les gens qui ont eu des visions ne s'y attendaient pas.
Ce n'est
pas des choses qu'ils ont essayé de créer par eux-mêmes.
Donc,
ne cherchez pas les visions. Si elles viennent à vous, tant mieux. Si elles ne sont pas là, vous avez la foi.
Bitakuje ko ugumana
kwizera. Nous marchons par la foi.
Amen.
Amen.
Dieu
donne quelques privilèges à quelques personnes de recevoir un certain nombre de visions. Mais la réalité de votre ange gardien est quelque chose de très important.
C'est
lui qui vous accompagnera au troisième ciel. Ça, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous sachiez que toute personne qui meurt sur cette terre ne part pas toute seule. Elle est accompagnée, que ce soit là-haut, que ce soit vers l'enfer. Il
n'y
a aucun esprit humain qui se balade. Ça, ça a été le gros mensonge de la sorcellerie. Dieu contrôle parfaitement les esprits humains. Ils sont soit au ciel, ils sont soit en enfer. Mais ils ne sont pas en train de se promener et de vous dire bonjour ou de vous chatouiller les pieds pendant la nuit. Soyons bien clairs. Donc, à chaque fois que des personnes ont fait cette expérience, ou même des gens qui sont morts et qui sont ressuscités et qui ont vu le ciel, parce qu'il y a aussi certains témoignages comme ça de personnes qui sont mortes et que Dieu a ressuscité par sa puissance. Et là encore, si quelqu'un vous dit je suis ressuscité, tu
lui
demandes qu'est-ce que tu as vu. S'il te dit j'ai rien vu, ça veut dire qu'il était dans le coma. Si la personne est vraiment morte et qu'elle est vraiment ressuscitée, obligatoirement elle a été au ciel et après elle a été rappelée sur la terre. Soyons clairs.
Savez,
il y a beaucoup de gens qui croient toutes sortes de choses bizarres. Dieu est un Dieu d'ordre. Si quelqu'un est mort, son esprit, son corps sortent. Amen.
Amen.
Alors, donc ils sont tous diront qu'ils ont été escortés vers le ciel. Jean parlera de quelqu'un qui lui a dit viens, monte plus haut dans l'Apocalypse, chapitre 4, nous l'avons lu déjà. Et il s'est retrouvé au ciel. Il n'en décrit pas plus. Maintenant, on peut recouper des témoignages, mais on ne peut pas construire, je rappelle, les doctrines sur des témoignages. Alors, il y a un certain nombre de choses que la Bible va nous montrer. D'abord, on va relire 2 Corinthiens 12. Où c'est Paul qui va nous décrire cette expérience qu'il a faite d'être ravi en esprit. Et il va utiliser un certain nombre de termes. Paul dira au verset 1 de 2 Corinthiens 12, il faut se glorifier, cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme qui, en Christ, qui voici 14 ans, était dans son corps, je ne sais, si c'était hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Donc je vous rappelle, cette expression entre ravi, c'est esprit et âme qui sortent du corps et qui vont jusqu'au troisième ciel. On a bien expliqué ce que c'était que les trois cieux. Je sais que cet homme était dans son corps ou hors de son corps, et Paul n'arrive pas à le décrire, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, etc. Alors, j'aimerais bien que tu lises donc le verset 3 et 4, s'il te plaît.
Nous avons dit que nous avons commencé à dire 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 que nous avons.
Donc ici, Paul nous parle de cette expression qu'il fut enlevé dans le paradis. Et en fait, ici, il dit, j'ai entendu des choses. En fait, littéralement dans le grec, ça veut dire des choses que j'ai du mal à exprimer. C'est-à-dire, j'ai du mal à trouver mes mots pour décrire ce que j'ai vu. C'est le sens de ce texte ici. Le sens de ce texte n'est pas que Paul n'avait pas le droit de dire ce qu'il a reçu.
Ce qu'il a vu.
Parce que très souvent, plusieurs fois dans
Éphésiens,
Paul va nous dire qu'il a reçu des choses par révélation et qu'il nous les écrit. Donc ça veut bien dire qu'il a
dit des choses, et c'est évident que ce que Paul a reçu, toute la doctrine de l'Église que Paul a
reçue,
il l'a reçu, en tout cas, j'en suis absolument persuadé, quand il a fait cette
expérience.
Donc, Paul nous parle du paradis.
Ok,
regardons Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse.
Wishurwa kwa Yohana kabiri umurongo w'indwi.
Apocalypse 2 verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises, au vainqueur je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Guri n'ugutwi niyumva ico mpwema abwira amashengero unesha nzomuha kujya kuvyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana.
Donc ici encore on parle de paradis. Le jardin extraordinaire. Maintenant, nous allons faire un petit tour dans Apocalypse 21 et 22. Et nous allons essayer de découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Rappelez-vous, on l'a étudié dans Jean chapitre
14.
Et Jésus disait à un moment très difficile pour les disciples, juste avant qu'ils partent,
il y a
beaucoup de place dans la maison de mon père, beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. Et ce mot demeure, je vous rappelle que ça nous parle d'immenses maisons. Nous essayons un petit peu de construire et de comprendre ce qu'il y a dans le ciel.
Oh,
le ciel, ça doit être un endroit super. Vous savez, dans le ciel, autour du trône de Dieu,
il y a cette gloire
qui descend. Une gloire étonnante. En fait, la plus grande gloire se trouve autour du trône de Dieu. Elle jaillit du trône de Dieu.
Quand
nous goûtons un peu d'onction sur cette terre,
c'est
une petite goutte par rapport à l'immensité du fleuve qui coule de Dieu.
De
la gloire de Dieu qu'il y a dans le ciel. Parce que le ciel est glorieux. Le ciel, c'est un endroit immaculé, c'est-à-dire qui n'a pas été touché par les péchés. Les malheurs qui sont sur cette terre
sont
les conséquences de la corruption du péché. Parce que tout ce que Dieu crée normalement, c'est parfait. Il
n'y
a pas de mort, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de malheur.
Il n'y a pas
de problème dans la création de Dieu.
Sauf
quand elle est touchée par le péché. Et ça a été justement l'horreur de ce que Adam et Ève ont fait. Parce que Dieu avait mis un paradis sur la terre. C'était le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, c'était exactement le reflet du troisième ciel. La gloire de Dieu était partout. Maintenant, ce qu'on voit dans Apocalypse 21 et 22,
ça
va être la description d'un certain nombre de choses. Donc, nous allons les découvrir petit à petit. Jean va nous expliquer un certain nombre de choses qu'il va voir. Il va les mettre avec ses mots. Il va les décrire en comparaison avec ce qu'il connaît sur la terre. Vous savez, si vous avez jamais vu quelque chose de votre vie et que vous voulez le décrire, une chose qui va être difficile, c'est si vous avez jamais vu ça, vous allez dire ça ressemblait à ça, mais c'est difficile à décrire. Tous ceux qui ont été au ciel, ils ont dit qu'ils ont vu des plantes qui sont extraordinaires. Ils ont vu des couleurs. Ils essayent de vous les décrire. Mais ils ont du mal à vous les décrire. Ils vous parlent beaucoup d'or, par exemple, qui est transparent comme du cristal. Mais mesdames, vous savez très bien que l'or n'est pas transparent, sinon vous n'achetez pas une bague en or transparent. Transparent. comme du cristal.
Donc,
ils décrivent des choses
qu'ils
n'ont pas
vues
sur la terre.
Il
y a des matières célestes qu'il n'y a pas sur la terre. Par contre, ils vous diront tous la même chose. Il y a des choses qui se ressemblent. Des choses qu'ils ont vues qui ressemblent à la création terrestre, mais ça
n'a
pas été touché par le péché. Le ciel n'a pas connu la corruption du péché. Donc, tout est parfait. Il
n'y
a pas de poussière dans le ciel. Il n'y a pas de route poussiéreuse. Formidable. Mesdames, les maisons, il n'y a pas besoin de faire du nettoyage.
Amen.
Rien ne s'use. Rien n'est corrompu par le péché. Tout est parfait.
Et
tout est touché par la gloire de Dieu. Tout est touché par la gloire de Dieu. Alors l'Apocalypse va nous décrire certaines choses. Regardons ensemble au verset
9.
Puis je vis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies, qui vient et me parla en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de
l'agneau. »
C'est qui l'épouse ? C'est nous. Ce sont tous les rachetés. L'épouse de Christ. Oui, messieurs, je sais que ça vous gêne toujours d'être appelé l'épouse.
Et
nous formons tous ensemble l'épouse de Christ. C'est une image de la Bible. Verset 10, il dit, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute quoi ? Montagne. » La Bible nous dit qu'il y a des... Apparemment, le ciel n'est pas plat et ennuyeux. Si vous aimez la montagne, il y a des montagnes. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe. C'est du rouge foncé avec des marbrures dedans. Transparente comme du cristal. Là encore, du rouge foncé, transparent comme du cristal. C'est compliqué. C'est difficile à décrire. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes sur les portes 12 anges. Et des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'occident, c'est-à-dire à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau en bois pourri. Ce que vous avez dans vos Bibles ? Ah, c'est un roseau en quoi ? En or. Afin de mesurer la ville avec ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau, 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées. On va expliquer ce que c'est. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville d'or pur semblable à du verre pur.
Uburebure bungana n'ubwaguke agereshe uwo mugwa ryarenga agera mu stadio 2012 uburebure bw'umurambararo n'ubwaguke n'uburebure bw'igihagararo birangana.
Donc ici on voit qu'il y a une immense ville.
Aha turabona ko ari gisagara kinini
qui s'appelle la Jérusalem céleste.
Aricho bita Yerusalemu yera.
Jean va la voir descendre sur la terre, mais pour l'instant nous elle est encore au ciel.
Ngo Yohana uyabonye ari manuka kwise mugabo gushika uyu munsi turacyari ko kiri turacyazi ko kiri kikiri mu ijuru ico gisagara.
La Jérusalem céleste est entourée du paradis, le jardin de Dieu.
Yerusalemu yera rero ikabikikujwe na paradiso aryo tongo ry'Imana.
Donc au ciel, il y a le paradis qui entoure la Jérusalem céleste.
Ari paradiso aryo tongo rikikuje Yerusalemu yera.
Cette ville est immense.
Ico gisagara ni kinini cyane.
La ville fait environ
Ichogisagara gipima
environ 2200 km de côté.
gipima nk'ibirometero ibihumbi bibiri n'amajana abiri ku ruhande rumwe.
Imaginez-vous une ville qui fait 2200 km sur 2200 km. Rien que la ville, hein.
Nigisagara gusa gipima ibihumbi bibiri n'amajana abiri ibirometero.
Elle est entourée de murs avec des portes ouvertes, bien sûr, qui font 70 mètres de hauteur.
70
mètres, ça peut faire une tour de quoi? Une tour de, oh là là, presque 20 étages, enfin un peu moins de 20 étages environ. Une muraille. Qui fait 2200
km
de côté.
70
mètres de haut.
Mais
ce n'est pas de la pierre de carrière, là.
Ce n'est
pas de la brique qu'on a fabriquée qui pèse 10 grammes. Jean va nous décrire. Il nous décrit tout ce qu'il y a, tout ce que fait tout le tour, toute cette muraille gigantesque. Et il dit, la muraille était construite en jaspe au verset 18, et la ville était, oh là là, d'or pur, semblable à du verre
pur.
La Bible nous dit au verset 19, les fondements, vous savez, en général, les fondements, les fondations. Qu'est-ce qu'on met d'habitude dans les fondations quand on construit une maison? On met, bon, bah, tout ce qu'on peut trouver, quoi.
Toutes les
pierres qui sont mal taillées, tout ce que vous pouvez récupérer, tous les vieux morceaux de ciment s'il y en a, s'il y a quelques morceaux de métal, vous allez mettre tout ce que vous voulez. La Bible nous dit les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Ah, mesdames, vous allez être contentes. Le premier fondement, je suis sûr qu'il y a des dames qui vont rester vers les murailles en disant.
Gomatanguro yurugo gwa wa mugwa yarasharijwe namabuye yamoko yose yutubuyenge twigiciro kinini abadamu rengo bazoyakunda cyane ariko ntibishoboka ko bazoyakuramwe.
Je pense que le Seigneur mettra un petit écriteau. Interdit de prendre des pierres, interdit d'avoir un marteau et un burin. Mesdames, vous n'aurez pas besoin de ça parce que vous serez largement pourvus. Dieu nous donne les désirs parfaits de nos cœurs.
Amen.
Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, verset 19, de toutes espèces. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine. Allez voir les Cassaïens, ils vous expliqueront tout ça. Le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysopraste, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Mesdames, tu aimerais bien voir ça aussi. Chacune des portes était d'une seule perle. Imaginez-vous, une ville qui a des murailles de 70 mètres de haut. Je pense que la porte, vous savez, on ne rentrera pas comme ça dans la Jérusalem céleste.
Hein.
Ça doit être des portes immenses. Et la Bible nous dit que la porte est faite d'une seule perle. Vous savez que Dieu est riche. Dieu est supra-riche.
Il
n'y a rien dans le ciel qui est pauvre.
Il
n'y a pas de pauvreté dans le ciel.
Il
y a une ultra-super, hyper-abondance. La place de la ville était faite de pavés de bouillenzi. D'or pur, comme du verre transparent. Il y a quelqu'un ici qui a marché sur l'or, sur de l'or des fois, sur un grand.
Il y a quelqu'un
ici qui a été dans un palais d'un grand roi et qui a marché sur je sais pas, un parvis en or.
Je ne
crois pas. Hein. Alors au ciel, tu seras.
Alors,
Il
y en aura partout. Mais tu vas rapidement t'habituer.
De l'or partout.
Mais cet or, étonnamment, est transparent comme du cristal. C'est une matière qui n'existe pas sur la terre.
Et
c'est comme ça que tous ceux qui ont eu des visions, ils vous décriront la même chose.
Ils vous
diront, c'était de l'or pur et transparent. C'est difficile à décrire de l'or pur transparent. Comme du verre transparent. La Bible nous dit, je ne vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau.
Ngo kandi sinabonye urusengero kuri wo kuko umwami Imana ishobora byose na wa mwagazi ari bo rusengero rwawo kandi wa mugwa nturinda kwakigwa n'izuba canke n'ukwezi kuko ubwiza bw'Imana ari bwo bubaki.
Là après il va voir réellement ce qui va se passer une fois que cette Jérusalem céleste va descendre du ciel.
Hamara carabona ibizoba iyo Yerusalemu yera ni yamanuka ivuye mu ijuru.
On va s'arrêter là dans la description telle quelle.
Reka tuhagarikire ngaho mu
gucapura. C'est la même qui va descendre du ciel. Donc il nous l'a décrit.
Aratubwira ingene iyo Yerusalemu yera izomanuka.
Après il va nous décrire d'autres événements.
Hama muri makatwereka n'ibizoca bikurikira ibizoca biba.
C'est pas mon sujet ce soir donc je ne veux pas aller trop loin ici. Mais ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on fasse plusieurs remarques. Maintenant, on va sauter justement dans, au chapitre 22. Et là, il va dire, il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.
Ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'iciro ruva ku ntebe y'Imana na wa mwagazi.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de la vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations.
Ngo hagati y'irango rya wa mugwa hakujya no hakuno y'ugo ruzi hari igiti cy'ubugingo cera 12 mu mwaka kikera rimwe na rimwe uko kwezi gutasha.
Donc on va essayer de rapprocher plusieurs textes ici.
Tugerageza kwegeranya ibice bitari bike ngaha.
Parce que la Bible nous décrit certaines choses.
Kuko Bibiliya hari ibintu igenda yatwereka.
Si on fait un résumé.
Ugerageje kuvuga muri make rero.
On nous parle du paradis.
Baratubwira paradis.
Jardin divin.
Bakatubwira ko ari tongo ry'Imana.
On nous parle d'une Jérusalem, d'une ville céleste. Énorme. On nous parle du trône de Dieu au milieu de la Jérusalem. Tous ceux qui ont été au ciel ont vu exactement ça.
Ils
sont arrivés dans la partie du paradis. Ils ont vu des gens qui venaient juste de mourir et qui montaient au ciel. Ils ont vu leurs anges les accompagner. Et ils ont vu des gens entrer et sortir de la ville et s'approcher du trône. Ils ont vu des plantes. Ils ont vu aussi certains animaux. La Bible nous parle à un moment que Jésus est sur un cheval.
Lisez
l'Apocalypse. D'autres ont dit qu'ils ont vu certains animaux qui ressemblaient en partie, mais pas tout à fait, à ce qu'il y a sur la terre. Mais là, j'ai rien, aucun texte biblique pour le dire. On
ne
peut pas dire plus que ce que la Bible dit, même si on peut recouper des témoignages. Alors, une grande question. C'est savoir à quoi on ressemble quand on est au ciel. Si t'es un peu vieux, un peu jeune, comment tu
es?
Est-ce qu'on se reconnaît? Ça, c'est une grande question que beaucoup de chrétiens posent. Pour l'instant, nous n'avons pas que notre corps ressuscité. Quand tu quittes ton corps, tu vois le monde spirituel. Et il est évident, et d'après ce qu'on peut voir, que ce soit dans la Bible, d'ailleurs on a juste un passage qui nous en parle, c'est le passage du pauvre et de Lazare, du riche là. Pauvre Lazare, pardon, et du riche. Je crois que c'est dans... Luc 16, c'est ça, ouais. Luc 16. Luc chapitre 16.
Muri Luka igice cya 16.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu ne vois pas le monde spirituel. Parce que ce qui t'empêche de le voir, c'est ton corps. Quand tu es libéré de ton corps, tu vois le monde spirituel. Tu peux voir Dieu. Tu peux voir les anges. Tu peux voir les rachetés. Tu peux voir aussi, juste pendant peut-être ton voyage, quelques esprits mauvais.
Qui ne
te toucheront pas, bien sûr. Mais on voit le monde invisible. Ce qui nous empêche de voir le monde invisible aujourd'hui, c'est notre corps qui a hérité de la malédiction de la chute. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et Adam et Ève, eux, avaient la grâce de pouvoir voir dans les deux mondes. C'est pour ça que je vous rappelle que Satan s'est déguisé. Il ne s'est pas incarné en serpent, mais il a pris une forme de serpent. Et il a trompé Ève. Je vous rappelle que Satan n'a aucun pouvoir d'incarnation.
Sinon,
ça serait une catastrophe, sinon il s'incarnerait à droite et à gauche. Et
ce
serait une catastrophe pour les êtres humains parce qu'on ne pourrait pas le reconnaître. Mais les démons n'ont pas cette puissance-là, ni Satan. Donc Adam et Ève voyaient dans le monde spirituel et dans le monde naturel en même temps. Quand ils ont chuté, ils n'ont plus rien vu du monde spirituel. Et tous ceux qui ont hérité, c'est-à-dire nous, les descendants d'Adam et Ève, nous avons hérité de leur, au travers de leur sang, de la malédiction de la chute. C'est pour ça que ton corps va rester ici. Parce que ton corps ne peut pas soutenir, supporter la gloire de Dieu. Parce que ton corps a connu le péché. Ton esprit, lui, Dieu y habite. Et à ce moment-là, tu peux, c'est ton être intérieur, esprit plus âme qui vont partir. C'est pour ça que tu auras besoin de ressusciter d'entre les morts. Pour pouvoir retrouver ta condition d'homme en trois dimensions. C'est pour ça que le ciel, je vous dis, je vous le répète, est une étape. Le ciel va se matérialiser après quand la Jérusalem céleste va descendre du ciel. Et on verra que la Bible nous dit que Dieu sera tout en tous. Ce qui ne peut pas être le cas aujourd'hui parce que le monde a connu la corruption. Le monde a été touché par le péché. Dieu ne peut pas être tout en tous.
C'était
une doctrine d'ailleurs qui a été enseignée par certains philosophes et qui est une fausse doctrine qui s'appelle le panthéisme, c'est-à-dire Dieu en tout et tout est Dieu.
Et
nous verrons que ça c'est l'accomplissement de toute chose. C'est vers ça que nous allons converger dans le plan de Dieu. Alors ici, bien sûr, c'est une parabole dans Luc chapitre 16. Mais il faut que vous compreniez que quand vous quittez votre corps, le monde spirituel, vous communiquez au travers du monde spirituel, au monde spirituel. Uniquement d'ailleurs. C'est pour ça que Dieu contrôle les esprits humains. Si tu es au ciel, tu ne communiques qu'avec ceux qui sont au ciel. Tu ne peux pas revenir sur terre et faire « Hello Steve, je suis mort il y a 3 jours, bonsoir. » Ça, c'est vraiment de la sorcellerie pure. Ce sont des esprits démoniaques qui se font passer. Ce qu'on appelle des esprits familiers qui parfois se font passer pour des gens.
Et
c'est des gens qui font de la sorcellerie ni plus
ni moins.
Et qui disent qu'un tel leur est apparu, qui leur a parlé de ceci et de cela, etc., etc. Et en fait, ce sont des esprits sataniques, ce sont des esprits familiers, ce qu'on
appelle.
Alors ici, verset 19, il dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges. Tiens donc. Dans le sein d'Abraham, le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens et pendant ta vie, et que tu as de même. Oh, pardon. Et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne non plus de là vers vous. Le riche dit : Je te demande donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Alors ici, c'est un des textes que nous avons qui nous parle de la vie après la mort. Mais là, il faut le remettre dans son contexte, il faut faire attention. Jésus donne une parabole. Et dans les paraboles, dans l'interprétation des paraboles, il y a un certain nombre de règles.
Ça s'appelle
un cours sur l'interprétation de la Bible.
On apprend
à interpréter la Bible, c'est-à-dire on ne prend pas un texte, un verset biblique comme ça.
Et on lui fait dire
ce qu'on a envie de lui dire.
Ça
ne fonctionne pas comme ça. Par contre, ici, il est sûr d'une chose, c'est qu'on voit, entre guillemets, un dialogue. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore le ciel ouvert. Quand on parle du sein d'Abraham, c'est une expression, une parabole que Jésus va donner, c'est une expression qu'il utilise. Et qui, d'une part, est imagée,
et
d'autre part, qui nous montre une vérité de l'Ancien Testament. Rappelez-vous que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance a été contractée lorsque Jésus est mort et ressuscité.
Il
a été au ciel pour sceller notre alliance. C'est seulement à partir de ce moment-là
où
les êtres humains qui ont cru dans le Messie ont pu commencer à naître de nouveau.
Et
c'est à ce moment-là seulement que ceux qui mouraient en Christ ont pu aller directement au troisième ciel. Je vous le dis et je vous le répète parce que c'est souvent une croyance que les gens ont. Élie n'a pas été au troisième ciel quand il est mort. Ni même Enoch. Ils sont morts d'une mort un peu particulière. Et si vous voulez, on pourra essayer avec vous. On va vous mettre dans une fusée avec les fenêtres ouvertes. Vous allez prendre une grande respiration et on va vous envoyer très vite. Et vous direz si vous êtes encore vivant à 50 ou 100
km
en haut. Donc ils sont morts d'une mort un peu particulière. Mais la Bible n'a jamais dit qu'ils ont été au ciel dans la présence de Dieu. Personne ne pouvait y aller avant la résurrection
de Jésus.
Donc ici on parle du sein d'Abraham. C'était un endroit d'attente où ceux qui attendaient, qui espéraient que le Messie arrive. J'avais marché selon leur connaissance de Dieu. Ils allaient. Parce que des gens comme David, par exemple, Moïse, ils sont morts. Et la Bible, si vous étudiez bien l'Ancien Testament, dans pas mal de, enfin, plusieurs passages, il est dit que, en fait, ils se sont couchés avec leur père. Nulle part, il est dit. Quand je vais mourir, je vais aller auprès du Seigneur. Je vous rappelle que c'est une révélation du Nouveau Testament parce que c'est réservé à nous qui sommes nés de nouveau.
Donc
ça, c'est des précisions que nous devons faire régulièrement parce que sinon, là, les gens sont tellement ancrés sur des idées préconçues et qui ne sont pas scripturaires que souvent, ils eux-mêmes fabriquent leur propre théologie. Alors, en fait, le sein d'Abraham, c'est le père des croyants.
croyants. Abraham, c'était un symbole
ici.
Et l'idée du Saint d'Abraham, c'est-à-dire tous ceux qui croyaient qu'étaient des croyants de l'Ancien Testament, des gens du monde entier qui voulaient marcher avec Dieu, selon leurs connaissances. Moïse, quand il est mort, a été dans le Saint d'Abraham. Tous ceux, même les plus grands héros de l'Ancien Testament, étaient dans le
Saint-Abraham.
Jésus visitera cet endroit après sa résurrection.
Il
fera naître de nouveau.
Et
après, ils vont être escortés au ciel.
C'est
pour ça d'ailleurs que je vous rappelle que dans Éphésiens 4, il est dit qu'il a emmené des captifs. Et il a emmené tous les saints de l'Ancien Testament, tous les croyants de l'Ancien Testament au ciel. C'est là où le ciel s'est peuplé avec tous les croyants de l'Ancien Testament.
C'est
la première partie où ceux qui croyaient qui était dans Saint-Abraham ont pu naître de nouveau et ont pu peupler le ciel au départ. C'est pour ça que je vous rappelle, au ciel, tant que Jésus n'était pas ressuscité, il n'y avait personne. C'est pour ça que dans toutes les visions que vous voyez dans l'Ancien Testament, on ne parle pas d'une grande foule. On ne parle pas comme hébreux de l'assemblée des premiers-nés. Comme nous l'avons vu déjà. On
ne
parle pas de ces choses-là parce que ça n'existait pas. Il n'y avait personne dans le ciel. Alors maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on va se reconnaître? Oui. Sans tous tes défauts et sans tous mes défauts. Sans tous nos défauts. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va être dans une condition de perfection. Tout ce qui te trouble aujourd'hui, tout ce qui ressemble à des problèmes qui parfois ne sont que des grains de sable, mais que tu regardes avec ton microscope de la chair, ça n'existera plus. Tu te sentiras léger. Tu feras comme Fortran. Tu seras libre de tout fardeau. C'est un mot qui n'existera plus pour toi. Souci n'existera plus pour toi. Manque de quelque chose n'existera plus
pour toi.
Et tu verras tous ceux qui sont là-haut. Et on se réjouira ensemble. On verra David. On verra Moïse. Je pense qu'on verra Adam et Ève. On verra ensemble Adam et
Ève.
Je vous amènerai les voir. On verra tous ceux qui sont morts en
Christ.
C'est pour ça que la Bible nous dit que quand quelqu'un meurt et qu'il est en Christ,
nous
ne devons pas nous affliger comme le monde s'afflige. Parce que le jour où tu vas quitter ta maison,
pérestre,
tu vas revoir les gens. Et cette connaissance sera intuitive. Rappelez-vous, la Bible nous parle de deux mots pour connaissance. Il y a la connaissance des sens. Et il y a la connaissance intuitive. C'est très simple. Dis à ton voisin, c'est très simple. La connaissance des sens, c'est tout ce que tu apprends, tout ce que tu raisonnes, tout ce que tu imagines. La connaissance intuitive, c'est tout ce que Dieu transmet dans ton esprit. Exemple très simple. Si tu sais conduire une voiture, tu as appris un jour à conduire une voiture. Connaissance charnelle des sens. Maintenant, est-ce que tu connais Jésus par tes sens?
Non.
Tu connais Jésus par révélation. T'as jamais vu Jésus?
Ntiwigeze ubona Yesu.
Tu n'as pas cru parce que tu as dit ah, j'ai vu Jésus.
Ntiwize kubera ko wavuze ngo nabonye Yesu namubonye.
Non. Tu as cru?
Warizeye?
Parce que dans ton cœur.
Kubera ko mu mutima wawe.
Il a mis une conviction.
Yashizemo kwemezwa.
Et quand tu l'as appelé.
Mazige wamuhamagara.
Lui demandant pardon pour tes péchés.
Umusaba imbabazi kubw'ibyaha
byawe. Il est venu habiter dans ton cœur.
Araza yibera mu mutima.
Et aujourd'hui tu dis je connais Jésus.
Mazi umuntu uravuga uti ndazi Yesu.
Mais quand tu dis je connais Jésus,
alors que vous avez un gondazi, yes.
Des fois, ça t'est difficile à expliquer parce que parfois il peut y avoir un inconverti moqueur. Il te dit tu connais Jésus, tu l'as vu ce matin, tu as pris ton petit déjeuner avec lui.
Non,
j'ai pas pris mon petit déjeuner avec lui. Parce que tu parles ici de connaître par la foi, par l'intuition.
Ce
qu'on appelle une connaissance intuitive non apprise mais révélée. C'est la différence entre la connaissance des sens
et
la connaissance intuitive. Toutes les personnes qui ont fait cette expérience d'aller au ciel vous diront, par exemple, j'ai vu David, le roi
David,
et je savais que c'était David. Et certains diront même, ils diront, bonjour Steve. Comment tu me connais?
Parce
que je sais que tu es Steve.
C'est
ce qu'on appelle une connaissance intuitive. Au ciel, c'est comme ça que ça marche.
Ce
n'est pas quelque chose que tu apprends. Tu n'apprends pas les gens dans tes relations. C'est des choses qui sont automatiques. C'est une connaissance intuitive. Parce que tu n'as plus tes sens. Mais c'est par l'esprit que ça passe. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine pour la suite.